Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Neuroexcellence, de Biljana Todorova, est un ouvrage de vulgarisation appliquée qui relie neurosciences, développement des compétences et pratiques de coaching, publié chez Dunod. Il se présente comme un guide destiné à aider les lecteurs à mieux comprendre certains mécanismes cognitifs et émotionnels qui influencent confiance, attention, stress, communication et adaptation au changement. L'autrice, docteur en sciences et conférencière spécialisée dans la performance cérébrale, mobilise son parcours professionnel ainsi que son expérience de recherche et de tests cliniques sur son propre cerveau. Le livre ne propose pas un traité académique de neurosciences. Il cherche plutôt à traduire des notions relatives au cerveau en exercices simples et en répètes utilisables dans la vie quotidienne ou au travail. Son objectif est de permettre une relation plus lucide avec les pensées négatives, les réactions automatiques et les difficultés de concentration. La neuroexcellence désigne ainsi moins une perfection mentale qu'une démarche active pour développer des habitudes cognitives, émotionnelles et relationnelles plus utiles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, déconstruire les croyances simplistes sur le cerveau négatif. Le premier enjeu du livre consiste à prendre de la distance avec les récits spontanés que chacun entretient sur son propre fonctionnement mental. Les thèmes annoncés autour du cerveau négatif, de la distraction, de la place de l'inconscient et du rôle de l'amygdale, servent à examiner la tendance à interpréter trop vite une pensée ou une émotion comme un fait. Cette orientation est importante car une réaction de peur, de doute ou de découragement peut être vécue comme une preuve objective d'incapacité, alors qu'elle constitue aussi une réponse automatique à une situation perçue comme incertaine ou menaçante. Todorova met donc en avant une forme de vigilance cognitive. Il ne suffit pas de vouloir penser positivement. Il faut identifier les mécanismes qui alimentent la rumination, le retour au passé, la focalisation sur le risque ou la dévalorisation de soi. Le livre semble privilégier des exercices qui interrompent cette dérive et ramènent le lecteur vers une analyse plus concrète de la situation. Cette démarche évite en principe deux écueils fréquents du développement personnel, considérer toute difficulté comme une faute individuelle, ou croire que le cerveau peut être contrôlé par une simple injonction. Le lecteur est plutôt invité à reconnaître ses automatismes afin de choisir une réponse plus adaptée. Deuxièmement, faire de l'agentivité un levier de changement durable, la formule de l'excellence mentale place l'agentivité parmi ses éléments centraux. Ce terme renvoie à la capacité de se percevoir comme acteur de ses choix et de ses actions, même lorsque les circonstances ne sont pas entièrement maîtrisables. Dans le cadre du livre, cette idée donne une direction pratique aux connaissances sur le cerveau. Comprendre un mécanisme ne produit un effet que si cette compréhension débouche sur une modification des conduite. L'autrice relie cette capacité au rapport au temps, à la confiance en soi, à la honte, à la culpabilité et à une hygiène cérébrale. Ces thèmes signalent que la performance ne se réduit pas à une intensification de la productivité. Elle suppose aussi de diminuer les conflits mentaux inutiles et de sortir de comportements entretenus par la peur du jugement ou par une exigence irréaliste de perfection. L'intérêt de cette approche est de déplacer la question de la motivation. Au lieu de dépendre uniquement de stimulants extérieurs, le lecteur est encouragé à établir des conditions favorables à un engagement plus conscient. La distinction annoncée entre plusieurs niveaux de confiance souligne également que celle-ci ne doit pas être comprise comme une assurance permanente. Elle peut se construire par des actes cohérents. Une meilleure connaissance de ses limites et une attention portée aux conditions qui soutiennent réellement la décision et la persévérance. Troisièmement, entraîner attention et autres muscles cognitifs. Le livre consacre une partie de son parcours aux muscles cognitifs, dont l'attention constitue un exemple explicitement annoncé. Cette métaphore est cohérente avec le projet général. Les capacités mentales ne sont pas des qualités fixes, mais des fonctions qui peuvent être entretenues par des pratiques répétées. L'attention est particulièrement pertinente dans un contexte marqué par les sollicitations numériques, la surcharge d'informations et la multiplication des tâches. Une attention dispersée ne nuit pas seulement au rendement professionnel. Elle fragilise aussi la qualité de présence dans les conversations, la mémorisation et la capacité à distinguer une urgence réelle d'une stimulation passagère. Le traitement de ce sujet semble viser des outils quotidiens plutôt qu'un protocole expérimental complexe. Cette orientation rend le livre accessible à des lecteurs non spécialistes. Tout en rappelant une idée essentielle, optimiser son fonctionnement mental ne signifie pas demander au cerveau de rester concentré en continu. Il s'agit plutôt de repérer les facteurs de dispersion, de ménager des temps de récupération et de créer des routines compatibles avec les limites de ses ressources. La notion de muscle cognitif permet ainsi de relier apprentissage, régularité et auto-observation. Elle fournit un contrepoint concret aux promesses trop vagues de maîtrise de soi en mettant le progrès sur le terrain de comportement observable et ajustable. Quatrièmement, réguler le stress sans confondre pression et échec. NeuroExcellence aborde le stress comme un phénomène à comprendre et à réguler plutôt que comme un état qui devrait disparaître. Les informations disponibles sur le livre et sur les interventions de Biljana Todorova confirment son intérêt pour les réponses cérébrales à la pression, aux défis et à l'incertitude. Cette perspective a une implication utile. Le stress peut signaler une mobilisation devant un enjeu. Mais il devient problématique lorsqu'il enferme durablement la personne dans l'anticipation négative, la paralysie ou les réactions impulsives. Le livre semble proposer des pistes pour alléger la pensée, lâcher prise et reprendre du recul face aux scénarios mentaux automatiques. Sa valeur tient moins à une promesse de sérénité constante qu'à une invitation à différencier les données concrètes de la situation et les interprétations anxieuses ajoutées par le cerveau. Les exercices quotidiens annoncés peuvent alors servir de moment de réajustement, observer son état, identifier un déclencheur, modifier une habitude ou rediriger son attention. Cette logique est applicable autant à la sphère personnelle qu'au travail. Elle est particulièrement utile aux lecteurs qui doivent prendre la parole, gérer des délais, accompagner une équipe ou faire face à des changements. Le livre rappelle ainsi que la régulation émotionnelle relève de pratiques répétées et non d'une volonté ponctuelle. En dernier lieu, améliorer communication et relations par une meilleure lecture de soi, le projet de NeuroExcellence dépasse la seule optimisation individuelle, puisque la communication, l'aisance relationnelle et les interactions avec les équipes figurent parmi ses objectifs déclarés. Cette dimension est importante, car beaucoup de difficultés relationnelles ne proviennent pas uniquement d'un manque de techniques de prise de parole. Elles sont aussi liées au biais de perception, aux réactions défensives, au stress et à la manière dont chacun attribue des intentions aux autres. En invitant le lecteur à mieux observer ses propres automatismes émotionnels et cognitifs, le livre fournit un socle pour communiquer avec davantage de clarté et de recul. La promesse de communiquer avec plus d'impact doit donc être comprise comme une combinaison de présence, de régulation et de capacité à ajuster son message au contexte, plutôt que comme une méthode de persuasion mécanique. Dans un environnement professionnel, cette approche peut contribuer à rendre les échanges plus constructifs, notamment lorsque les enjeux de reconnaissance, de motivation ou de changement créent des tensions. L'ancrage de Todorova dans les domaines du leadership, du bien-être et de la collaboration explique cette attention aux relations de travail. Toutefois, les outils présentés peuvent aussi intéresser toute personne souhaitant mieux identifier ce qui, dans ses réactions immédiates, facilite ou complique le dialogue. La neuroscience y devient un cadre de réflexion pratique sur la qualité des interactions. En conclusion, NeuroExcellence conviendra surtout aux professionnels, managers, coachs et lecteurs de développement personnel qui souhaitent disposer de repères concrets sur attention, stress, confiance et communication. Il peut également intéresser les personnes curieuses de neurosciences, mais peu attirées par les ouvrages techniques. Car son ambition est de rendre des notions scientifiques directement mobilisables dans les situations ordinaires. Son bénéfice pratique réside dans les exercices et dans la place accordée aux habitudes quotidiennes. Le lecteur est encouragé à observer ses pensées automatiques, ses réactions émotionnelles et ses conditions de concentration afin de tester des ajustements réalistes. Sur le plan intellectuel, le livre propose une lecture du changement qui associe mécanismes cérébraux, responsabilité personnelle et contexte relationnel. Il se distingue des guides de performance plus généralistes par le parcours scientifique de son autrice, par son usage explicite du langage des neurosciences et par le rôle donné à ses expériences cliniques personnelles. Cette singularité ne dispense pas le lecteur de garder un regard critique, notamment lorsque des outils de coaching sont rapprochés de résultats scientifiques. Les neurosciences ne fournissent pas à elles seules une recette universelle pour résoudre les difficultés personnelles ou professionnelles. Mais le livre paraît trouver sa place comme introduction pratique, accessible et structurée, destinée à transformer des connaissances générales sur le cerveau en occasion de réflexion et d'action. Il sera particulièrement utile à qui recherche un cadre pour expérimenter progressivement plutôt qu'une promesse de transformation instantanée. Si vous souhaitez soutenir Biljana Todorova, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.